au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, au fil des pages sur Canal Académie, a le grand plaisir de recevoir l'historien le plus médiatique de l'histoire de la télévision. Un historien superbement médiatisé à la télévision, à la radio, pour le grand bonheur du public. Car il est vrai que dans le rôle de l'historien tel que le conçoit notre invité, il n'y a pas que le travail en solitaire, le travail de l'enquêteur sur les pas de l'histoire et sur les pas des hommes, des femmes qui ont contribué à cette histoire. Il y a aussi tout le difficile travail de communication, communiquer, expliquer l'histoire à ses contemporains, tout en satisfaisant également sa soif de découvrir, de révéler, de donner à réfléchir et à penser. Canal Académie reçoit aujourd'hui pour vous Alain Decaux. Alain Decaux, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors justement, par rapport à ce travail de l'historien que vous êtes, quand, comment, d'où vous est venu ce goût pour l'histoire ? Est-ce une question de culture, de transmission familiale, ou un hasard et une grande nécessité?
Le hasard et la nécessité, titre célèbre, auquel je ne crois pas du tout. Je n'ai jamais adhéré à cette thèse. Bon, moi, ce sera un autre sujet de conversation.
Mais cela est
l'origine de cette appétence pour l'histoire, je ne le cache pas, je ne l'ai jamais caché, c'est la lecture à 11 ans du comte de Monte-Cristo et donc la découverte d'Alexandre Dumas. Voilà, c'est parti de là.
C'est le rêve, l'aventure ?
Non, c'est la découverte du passé. Parce qu'Alexandre Dumas et mon père me le répétaient sans cesse à mesure que j'avançais dans la connaissance de Dumas. Chaque fois qu'il y avait une bonne note, qu'est-ce que tu veux ? Ben, un livre de Dumas. Je n'ai pas lu tout Dumas. Je ne crois pas que personne ait lu tout Dumas. Je ne suis même pas sûr que lui-même ait lu tout Dumas. Ça, c'est pas gentil d'ailleurs, puisque je l'admire beaucoup. Bon, mais Dumas, c'est le passé. Et de Dumas, roman historique, sur les sollicitations de mon père, qui disait « Mais Dumas, tu sais, c'est de l'histoire, mais pas tout à fait de l'histoire. » Alors, j'ai, vers l'âge de 14 ans, voulu découvrir l'histoire qui n'était pas romancée. Et j'ai trouvé ça aussi très bien. Parce que c'est vrai, il n'y a pas besoin de romancer. Quand on romance, c'est tout à fait une autre perspective. Dumas est un très grand écrivain français, mais aussi l'historien qui cherche à raconter, à ressusciter l'histoire, c'est pas mal non plus. Voilà.
Alors justement, qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans cette mécanique de l'histoire ? Tout peut s'expliquer, tout peut s'enchaîner, se comprendre ?
Précisément, non. Rien de tout ça ne peut se faire facilement, aisément, et même la réunion de toutes ces demandes que vous proposez, presque jamais ne se fait totalement. Vous savez, la vérité historique. La vérité historique dépend également, bien sûr que l'histoire est une science, je ne dirai jamais le contraire, mais il y a à côté de cette science toujours un peu d'art. Vous mettez 5 historiens dans une même maison, fermés à clé, on leur passe la nourriture par un hublot, tout ça, vous voyez, ça c'est Dumas, ça. Et là, ils ont à traiter le même sujet en un mois. Il y a les mêmes sources, exactement les mêmes documents, les mêmes... Eh bien, ils la traiteront, ils seront très honnêtes en la traitant, mais il y aura 4 versions au bout d'un mois de l'affaire en question. Alors, on cherche, et c'est d'ailleurs un des côtés passionnants de l'historien, du métier d'historien, c'est de chercher et de tâcher de trouver si on y arrive.
Justement, ne faut-il pas un excellent bagage en sciences humaines ?
Oui, il vaut mieux avoir un bagage, il vaut mieux s'aventurer en sachant quelque chose. Mais vous savez, moi je suis l'exemple du jeune historien qui est parti dans la vie sans bagage. parce qu'après un an d'études d'histoire à la Sorbonne, où j'ai passé une année excellente, j'ai eu de merveilleux professeurs, j'ai appris beaucoup dans cette année, j'ai tout à coup décidé d'abandonner mes études et de me dire, eh bien, les enquêtes, je les ferai maintenant, tout seul. Voilà, c'était très, très vaniteux. Mais non, c'était fou. C'était pas vaniteux du tout, j'ai jamais été vaniteux. Mais c'était fou. Mais
la passion.
Enfin, c'est vrai qu'on peut le faire. On peut le faire. Mais il faut le faire sérieusement. Une enquête, ça se fait. J'ai découvert tout seul les archives nationales, tout seul la Bibliothèque nationale, tout seul les mille sources qui existent. Et à l'âge où je suis, j'ai toujours la même curiosité. Je me disais, quand j'étais tout jeune, c'est formidable. Tout ça, dès que j'arrivais dans un lieu où j'allais chercher, trouver l'ouverture d'un carton aux Archives nationales, c'était une émotion. Mais à mon âge, elle existe toujours. Quelquefois, je me disais, mais quand je vais vieillir, j'aurai plus cette appétence, ce travail. C'est toujours la même chose. On me dit, il y a quelque chose à trouver, à chercher quelque part, j'y cours. Ben voilà, j'espère que les années peut-être que Dieu me laissera, eh bien je serai comme ça jusqu'au bout. Je voudrais mourir, non pas comme Voltaire en faisant un bon mot, en faisant une découverte, la dernière.
Au fil des années, est-ce que vous vous êtes forgé une sorte de charte de l'historien? Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Que peut-on dire de l'objectivité de l'historien?
Oui, l'objectivité, honnêtement, je vous ai dit pourquoi elle ne pouvait pas réellement exister. Parce que chacun a un arrière-plan et qui l'accompagne. Il y a des gens qui sont religieux ou pas. Des gens qui ont une philosophie déterminée, des gens qui ont une influence familiale. On n'arrive pas vierge à l'histoire, on arrive avec ce qu'on a acquis. Alors, ce n'est pas l'objectivité, il faut essayer. Mais c'est, si vous voulez, l'honnêteté. Malheureusement, on va subir ce qui nous accompagne. Mais il faut être honnête et réagir contre les pulsions qui peuvent nous accompagner. Vous savez, l'historien partisan, c'est une chose affreuse. On l'a eu à droite comme à gauche. Prenez le côté stalinien ou hitlérien, on refaisait le dictionnaire, on enlevait les photos. Bon, ça c'est grave. Mais vous avez aussi, et je vais choquer peut-être un certain nombre de ceux qui m'écoutent, bon, si vous voulez un homme comme Maurras, et les Maurrassiens, il y a eu des historiens maurrassiens, dans l'autre sens, c'était également, les rois avaient toujours raison. Voilà.
Mais le choix n'est-il pas toujours partisan? L'historien est obligé de faire ce choix, parmi la somme de témoignages, la somme de documents qui sont à sa portée.
Mais le choix, n'est-ce pas, le choix d'un sujet. Je n'ai jamais eu de problème avec le choix d'un sujet. C'est comme De Gaulle qui dit « mais après vous, ce sera le vide » et De Gaulle a répondu « non, ce sera le trop-plein ». Ben, le trop-plein sujet. Quand je termine un livre, je décide tout de suite de commencer dans un autre, parce que je ne peux pas m'arrêter, j'en serais trop malheureux. Et là, bon, j'ai l'embarras du choix. Alors, ce qui me guide, c'est toujours la curiosité. Plus ou moins de curiosité. Et c'est, je choisis le sujet pour lequel je me sens le plus curieux. Qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais... Enfin, voilà. Écoutez, le problème de l'apprentissage de l'histoire est également un très vaste problème. Je pense qu'il est nécessaire, dans l'enseignement, et notamment l'enseignement élémentaire, de faire plus d'histoire qu'on en fait. J'ai une certaine fierté dans ma vie d'avoir combattu contre l'absence d'histoire que pendant plusieurs années, les enfants qui fréquentaient l'école élémentaire n'avaient pas d'histoire. L'histoire a été pendant plus de 10 ans, ce qui est fou, ça fait une génération entière, pendant 10 ans n'était plus obligatoire. Elle était réduite aux activités d'éveil. Et c'est-à-dire comme le modelage, comme ces choses-là. Et en même temps, à la discrétion du maître. le maître pouvait en faire s'il en avait envie, mais c'est tout juste. Et s'il n'en voulait pas, il n'en faisait pas. J'ai eu des témoignages de famille disant que leur enfant, pendant tout le cycle élémentaire, n'a pas fait d'histoire. Et c'est en recevant, parce que vous parliez du média, la radio, la télévision. Et ça, il y a un rapport, ça, c'est assez formidable. Et je ne regretterai jamais d'avoir fait ça, en plus de la vocation traditionnelle de l'historien qui écrit. La radio et la télévision ont une place énorme dans ma vie. Et ce sont aussi les rapports. Vous savez, quand on écrit un livre, on a quelques lettres. Or, il peut y en avoir une dizaine, quelquefois 40. Mais quand on fait une émission qui frappe, il y en a des centaines, des centaines. Les gens prennent parti parce qu'ils ont vu le type qui parlait. Ils ont discuté avec lui et ils ne peuvent pas discuter sans écrire. Je ne suis absolument pas d'accord. C'est scandaleux. Ah mais comme vous m'avez convaincu, tout, etc. Et là, c'est parce que je recevais des lettres comme un familier. Et des gens disent, c'est un historien, il faut lui dire, il ne le sait peut-être pas. Je ne le savais pas parce que j'avais une fille aînée qui avait franchi déjà le cap de l'élémentaire et qui avait, elle, de l'histoire. Et j'ai eu deux enfants ensuite, plus jeunes, qui n'étaient pas encore dedans. Alors là, c'était important que je le sache. J'ai cherché j'ai eu un contact avec l'association des professeurs d'histoire et de géographie qui a été formidable parce qu'ils sont, eux aussi, sont venus me voir. Et m'ont dit, voilà, on a besoin de vous. J'étais pas enseignant, j'ai jamais enseigné. Et c'était une alliance. Et j'ai découvert que c'était un scandale. Une génération, plusieurs, mais, enfin, ça dépend à quel âge ils avaient, mais ça faisait beaucoup de monde sur 10 ans. Mais je pense que c'est même plus de 10 ans. Et là, avec le concours de beaucoup de gens, c'est moi qui ai tiré le signal d'alarme, qui ai fait un grand papier, qui a été commenté énormément. Dans le Figaro Magazine, je suis paru parce que le directeur du Figaro Magazine à l'époque était Louis Poels, ancien instituteur. Et quand je lui en ai parlé, il a eu la réaction de l'instituteur. Je te donne le Figaro Magazine. Je suis paru sur la couverture du Figaro Magazine avec, paraît-il, ce geste que je faisais toujours à la télévision, l'index, pour convaincre, pour dire. Alors, vous voyez que je le faisais à l'index, c'est comme ça. Et avec ce titre énorme, « Parents, on n'apprend plus l'histoire à vos enfants ». Et là, c'était une révolution. Alors que le Figaro Magazine n'est pas un journal de gauche, comme chacun sait, mais la presse de la droite à la gauche, tous les journaux ont réagi. J'ai passé plusieurs semaines dans les radios, dans les télés, c'était quelque chose qui tout à coup suscitait une réaction énorme. Les Français se disaient, on n'a pas le droit de priver l'histoire. Et grâce à un ministre formidable qui est décédé maintenant, Christian Bellac, qui a pris la cause, vraiment il l'a pris très au sérieux, eh bien on a réussi, on a changé les règlements, la loi, les décrets, et on a obligé, on a rétabli en CM1 et CM2 histoire obligatoire, et qui plus est, j'ai mis de l'insistance chronologique. Chronologique. Vous savez, je ne crois pas tellement à l'histoire. Ça a beaucoup bougé. Hein. Il y a eu le grand moment où la chronologie était condamnée à mort. C'était scandaleux, c'était une honte. Mais on a quand même, peu à peu, on est revenu à des choses plus sages, même dans le secondaire, à ne pas... Bien sûr, on fait les grandes lignes, on groupe les sujets, on fait du Brodel, mais on fait aussi, on sert à lire. Vous savez, beaucoup de partisans de l'histoire non événementielle se sont mis à faire aussi de l'événementiel. On a quitté le moment difficile où il y avait une haine entre l'histoire événementielle et non événementielle. Et pour ça, la chronologie est tout à fait nécessaire. Et il y a dans les classes, et ça faisait partie du décret, une frise et qui montre les événements à l'heure où ils sont, à la date où ils sont. C'est très difficile de comprendre l'histoire sans faire de la chronologie. Voilà, donc je suis responsable, je peux le dire, parce que cet article du Figaro Magazine, eh bien cet article du Figaro Magazine, eh bien voilà, je suis l'auteur et après tous les autres ont démarré.
Pourquoi, Alain Decaux, philosophiquement et humainement parlant, avons-nous besoin de faire ce trait d'union entre aujourd'hui et hier pour avancer dans la sagesse?
Dans la sagesse, ce serait bien, et je le souhaite. Mais je serais peut-être plus modeste. Je crois qu'on ne peut pas être un citoyen sans connaître le passé de son pays. Les positions que nous pouvons prendre comme citoyens, et il est très important de les prendre. Un pays, ce sont les citoyens qui doivent décider des options. Ils ont le droit de vote, c'est le cas dans notre pays, c'est une chance. Depuis longtemps. Et il faut connaître ce pourquoi nous pensons, d'une certaine manière. Parce que tout ça n'est pas né d'aujourd'hui. Les mouvements aussi bien politiques que sociaux, sont de longue date, ils ont un passé. Et il est passionnant, vous savez, de regarder, par exemple, à propos du 21e siècle, de regarder le 19e siècle. Parce que c'est très souvent au 19e siècle que les grands courants politiques sont nés. Voilà.
Et en parlant de politique, c'est pour cela donc que vous avez accepté de donner votre participation à l'association Liberté pour l'histoire. Racontez-nous, c'est
oui,
une nouvelle création.
Oui, c'est récent. Mais vous savez, les politiques se sont un peu trop préoccupés de faire des lois abusives. Bon, je comprends qu'on souhaite que pour certaines choses, l'État considère qu'il a un point de vue. Mais obliger les historiens à se ranger à ce point de vue, ça va un peu trop loin. Voilà, alors nous avons été un petit peu agités sur un point particulier. C'est là où nous sommes une bande d'historiens.
Près de 600 historiens.
Mais c'est pas mal, vous savez. Au début, on n'était que 10. Mais ça s'élargit parce que les autres adhèrent. Hein. C'était l'esclavage, par exemple. C'est là-dessus qu'on a réagi. Parce qu'on est contre l'esclavage. Il y a parmi les historiens dont vous parlez, personne, c'est affreux, c'est abominable. On se dit comment est-ce que ça existait. Mais cela dit, un professeur, un remarquable historien, a fait une histoire de l'esclavage. Et il a dit dans la préface que c'était une abomination. Et ensuite, il a raconté, comme c'est le devoir de l'histoire. On l'a traîné devant un tribunal. Parce que, disait la partie civile, il n'avait pas répété à chaque chapitre que c'était une abomination. Alors là, ça nous a fâchés. Il dit, mais quand même, bon, il n'était pas suspect de défendre l'esclavage, il l'avait dit, et tout le monde est contre. Bon. Et là, on s'est réunis, on dit, oh, assez, laissez-nous travailler. Voilà. Alors ça commence comme ça.
Ce n'est pas au Parlement à écrire l'histoire.
Non, le Parlement peut très bien fixer des... Prenez par exemple les Arméniens. La France reconnaît le génocide arménien. Les historiens n'y voient pas d'inconvénient. Mais un projet de loi a été présenté, en ce moment, il n'est pas encore passé devant le Parlement, disant que les historiens qui, eux, ne reconnaîtraient pas le génocide seraient condamnés. Alors nous, on est contre. Laissez-nous dire, vous reconnaissez, vous, État français, le génocide. Mais si nous faisons des recherches, et si nous apercevons qu'on en a trop fait là-dessus, est-ce que nous n'avons pas le droit de le dire? Enfin, l'historien n'est pas un juge, mais une garantie. Alors voilà, c'est pourquoi notre groupe se tient les coudes, et actuellement, nous disons très clairement au gouvernement qui présente cette loi, nous disons, nous ne sommes pas d'accord. Ne nous obligez pas à marcher avec vous. Voilà.
Alain Decaux, le militant pour la libre expression de l'historien.
Ah oui, tout à fait.
Une libre expression.
Dans ce cas-là, vous comprenez, il y a eu un long moment en France où, en ce qui concerne la Révolution française, il y avait une pensée obligée. J'ai fait, dans cette année d'histoire dont je vous parle, j'ai eu la chance d'avoir un merveilleux professeur qui était Georges Lefebvre, professeur d'histoire de la Révolution, qui était un disciple de Mathiès, et pour qui la Révolution était, dans tous ses aspects, la vérité. Vous savez, Clémenceau avait dit aussi « la révolution est un tout ». Ben non, non. Moi, j'ai été de la génération où j'ai cru à tout ça, y compris la terreur. Mais plus tard, j'ai eu la chance de lire et de devenir l'ami de François Furet, qui, lui, n'était pas un homme du tout de droite, marxiste confirmé, et ayant même professé le marxisme, et Furet a dit non, c'est pas un tout, la révolution. Il y a des choses remarquables. Bon, dire que tous les Français auront part au gouvernement de la nation, c'est capital, c'est formidable, mais il y a des choses qui sont discutables. Et j'ai repensé à mon idole, vous savez, j'ai deux idoles, j'en ai plusieurs finalement, mais une de mes idoles, c'est Hugo. Et Hugo, qui avait été le préfacier de ce mouvement nouveau, disant « la révolution, oui aux droits de l'homme, non à la terreur ». Ben, Furet était un peu l'héritier de ça, c'est pas un tout. Il y a des choses mauvaises dans la révolution, voilà.
Alors revenons au XXe siècle, puisque chez Perrin, vous avez fait paraître les quatre tomes de « C'était le XXe siècle ».
C'est mon XXe siècle. C'est un XXe siècle où je n'ai sélectionné que les événements qui m'ont frappé dans ma vie. Il y en a qui m'ont frappé dans ma vie, qui étaient antérieurs à ma naissance. Le curé Potemkin, je n'étais pas né. Mais qui sont entrés dans ma vie, et ceux que j'ai connus moi-même. Alors c'est un choix.
Un choix arbitraire que vous assumez.
Tout à fait arbitraire que j'assume.
Et ce sont des sujets que vous avez traités soit à la radio, soit à la télévision.
Oui, notamment.
Et à la radio avec un collaborateur, Fernand Guyot, comédien, que vous venez justement de retrouver ici même avec nous aujourd'hui devant les micros de Canal Académie. Et Fernand Guyot va nous faire la lecture à présent d'un extrait du chapitre que vous consacrez, Alain Decaux, à un certain Landru.
Ce que Belin et Brandon Berger aperçoivent dans l'ombre, c'est d'abord un crâne et une barbe. L'homme n'est pas grand, plutôt malingre. Il enveloppe les policiers d'un regard scrutateur, cherchant dans l'instant à tout peser, à tout comprendre. Ses yeux, Dieu sait si les journalistes en parleront, on décrira inlassablement le regard hypnotique, les prunelles de fakir, les yeux de loup. Il est ce regard gênant par sa fixité. Il s'inscrit entre une calvitie presque agressive et une barbe longue et bien taillée, noire, avec des reflets roux. « Que me voulez-vous ? » demande l'homme. « Vous êtes bien le sieur Henri Désiré Landru. »« Je suis Lucien Guillet, ingénieur. » Ça va, ne faites pas d'histoire. Suivez-nous au bureau de la première brigade mobile, on a des choses à se dire. » Derrière le barbu, tout à coup, on devine une autre silhouette, celle d'une jeune femme en chemise, sur le joli visage de laquelle l'étonnement le dispute à la peur. L'homme, avec une infinie courtoisie, demande qu'il lui soit permis de s'habiller. Les policiers acquiescent, informent la jeune femme qu'elle devra les suivre, elle aussi. 5 minutes plus tard, le barbu et son ami sont prêts. Si la femme tremble légèrement, on ne peut discerner sur le visage de l'homme qu'un calme immense. Il ouvre un tiroir, tend un paquet de gauloises au policier. « Excusez-moi, messieurs, je n'aime pas être réveillé brusquement. Il me faut quelques instants pour me remettre. Je n'ai pas encore pensé à vous offrir une cigarette. » De l'ironie, même pas. Tout juste un soupçon de désinvolture. Une voiture va les conduire, elle, lui et les deux policiers, à la brigade de la rue Gréful. « Que sont devenus Madame Buisson et Colomb avec qui vous avez vécu, à qui vous avez promis mariage et que vous avez emmené dans votre village de Gambet ?» Quel étonnement dans les fameux yeux noirs! Quelle admirable surprise, quelle sincérité pour répondre « Mais qu'en puis-je savoir ?» Un bref silence pour ménager ses effets. Puis, moqueur, je ne suppose pas que vous m'accusez de les avoir expédiés à Buenos Aires. Non, non, lance d'hôtel très sec. Non, non, assassiné. Landru n'a même pas élevé la voix. Après un bref regard à la jeune femme épouvantée près de lui, il ajoute seulement, avec une immense politesse, « Trop poli pour être honnête », dira Dautel au journaliste. « M'inculper d'assassinat, moi, c'est bien gros, monsieur le commissaire, car il s'agit de la tête d'un homme. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. » On fouille Landru. Dans l'une de ses poches, on trouve un carnet. Dautel l'examine aussitôt. Tout à coup, sur une page, il relève une liste de noms tracés de la main de Landru. Cuchet, J, idem, Brésil, Crozatier, Havre, Colomb, Bablet, Buisson, Jaume, Pascal, Marchadier. 11 noms. Ceux qui sautent aux yeux du commissaire, ce sont ceux de Buisson et de Colomb. Deux femmes que l'on n'a plus revues depuis de longs mois. Deux femmes qui ont disparu après avoir connu Landru. Deux femmes probablement mortes, tuées par Landru. Deux noms parmi 11. Dautel regarde bien en face Landru. Ces noms, ce sont ceux de vos victimes, n'est-ce pas? Vous avez assassiné 11 personnes. Imperturbable, Landru réplique. Je n'ai rien à répondre. Si vous voulez m'accuser d'être l'auteur de ces 11 crimes, c'est à vous qu'il appartient d'en faire la preuve. On parle toujours de Landru. On en parle sans hostilité, voire avec un sentiment qui ressemble parfois à de la sympathie. Landru était un monstre, bien entendu, mais un monstre qui faisait rire. En France, il faut mettre les rieurs de son côté, même lorsqu'on a tué 11 personnes.
Ça n'est pas une philosophie, quand même.
Non, c'est un constat.
Merci, cher Fernand.
C'est un constat, le mal, le visage du mal.
Mais c'est vrai que Landru n'est pas traité. Vous avez un tueur du même genre, et encore bien pire, qui est Petiot. Non, qui a mené des gens qui venaient parce qu'ils allaient être sauvés, on devait faire passer un mec, il les a tués. Ben, jamais on ne s'amusera de Petiot. Jamais, bien qu'il ait répondu à son procès des choses énormes, comme Landru, mais il n'avait pas. Voilà, on ne saura jamais pourquoi Petiot est un monstre absolu et pourquoi Landru est un monstre tempéré.
Vous écoutez Canal Académie.
Alain Decaux de l'Académie française nous fait le plaisir, l'honneur d'être avec nous aujourd'hui devant les micros de Canal Académie. Après l'évocation de ces deux monstres, Petiot et Landru, nous passons à un autre fait divers qui a marqué les esprits et qui a marqué le vôtre, l'affaire Lindbergh, Alain Decaux.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Là, c'est parce qu'il faut dire que Lindbergh était le héros. Dans notre jeunesse, le héros absolu, puisque c'est le premier homme, le premier aviateur. À un moment, les aviateurs étaient tous considérés, eux aussi, comme des raretés.
Des surhommes.
Des surhommes. Eh bien là, c'était un héros, et là, cet homme, c'est à cet homme-là qu'on admire au-delà du possible, qu'on vole son enfant. Voilà.
L'horreur absolue. Oui. Fernand Guyot nous lit un extrait.
Un coup de sonnette avertit Elsie que Mrs. Lindbergh la réclamait. Anne ne se sentait pas bien. Elle avait contracté le rhume de son petit garçon. Quand elle s'y parut, Mrs. Lindbergh la pria de lui apporter une citronnade chaude. S'éloignant pour la préparer, Elsie rencontra Betty dans le couloir, qui l'interrogea. « Mrs. Lindbergh était-elle dans sa chambre ? Peut-être voudrait-elle voir le bébé ?» Cependant qu'Elsie descendait à la cuisine, Betty entrait dans la chambre du petit Charles. Sans allumer, la lumière du couloir suffisait. Elle alla d'abord fermer la porte-fenêtre. La pièce était froide. Elle alluma un radiateur électrique et s'approcha du berceau. Il lui sembla d'abord dans la pénombre que le bébé était là. Ce qui la frappa presque aussitôt après, ce fut le silence. Aucun bruit de souffle ni de respiration. Elle se pencha, tâta le lit. Le bébé n'y était pas. Elle se dit que sans doute Anne l'avait pris. Elle alla frapper à la porte de la chambre des Lindbergh. Sortant de la salle de bain, Anne parut. Betty lui demanda « Mrs. Lindbergh, avez-vous le bébé ?»« Non, pourquoi ? Je ne l'ai pas. » Très vite, Betty demanda où était le colonel. « En bas, dans la bibliothèque. » Betty y courut. « Colonel, avez-vous le bébé ?»« Non, n'est-il pas dans son berceau ?»« Il n'y est pas. » L'affaire Lindbergh commençait.
Eh oui, qui a remué le monde, cette affaire. Parce que cette curiosité dont je parlais était américaine avant tout, mais le monde entier, étant donné la célébrité de Lindbergh, sa popularité, le monde entier a, pendant des mois et des mois, souffert avec les parents. Parce que ça a duré des mois. Parce que l'enfant, en fait, avait été tué tout de suite, accidentellement d'ailleurs. Mais on espérait toujours, et nous espérions toujours.
Alain Decaux, où est votre vraie vie ? Plutôt avec toutes ces émotions fortes qui appartiennent à des moments du passé, et en contact avec tous ces personnages que vous faites revivre dans vos livres et dont vous nous avez communiqué avec tant de passion, comme vous l'exprimiez tout à l'heure, et de curiosité, les faits et gestes, ou dans la vie de vos contemporains ? Où est la vie d'Alain Decaux ?
Vous savez, alors là, si je n'avais comme intérêt que des gens morts, ce serait quand même limité. Mais j'ai beaucoup de gens vivants autour de moi. J'ai une famille, j'ai des enfants que j'adore, j'ai des petits-enfants, tout ça, ça a des amis, ça compte beaucoup. J'aime les rapports humains vivants. Et j'aime aimer, j'aime admirer, voilà. Je tiens le goût pour l'admiration peut-être de Sacha Guitry, encore une de mes idoles, vous le savez. Et Sacha Guitry disait « Je préfère admirer que dénigrer ». Et ben c'est ma loi, j'aime pas dénigrer, j'aime pas ça du tout. Mais admirer, on est bien quand on admire, on se sent bien.
Mais votre optimisme n'est-il pas abîmé au contact de tous ces grands faits historiques qui malheureusement nous apportent la vérification d'atrocités et de choses qui ne vont pas bien dans le monde depuis que l'homme est l'homme et qu'il a de plus en plus de moyens de destruction à sa portée ?
Je vous dirais que ce n'est pas du tout pour ça que je pourrais faiblir. C'est plutôt pour ce qui se passe en ce moment, de mon vivant, je trouve que le monde va très très mal, que nous sommes entrés très mal dans le 21e siècle, et que je tremble pour le monde.
Expliquez-nous.
Oh ben, écoutez, c'est très clair, c'est très clair. Bon, vous savez, au 19e siècle, des gens comme Victor Hugo ou Louise Michel sont morts heureux. Pourquoi sont-ils morts heureux ? Parce qu'ils étaient sûrs que le 20e siècle, dans le 20e siècle, il n'y aurait plus de guerre. Ils se disaient, nous nous sommes battus pour ça, le monde entier sera une seule république, il n'y aura plus de guerre, etc. Le 20e siècle n'a pas donné satisfaction au 19e siècle. Et bien là, ceux qui espéraient, après la Deuxième Guerre mondiale, que là, tout de même, on ne retomberait pas dans ces drames horribles, Eh bien, voit le XXIe siècle commencer par une série de conflits de toutes sortes, d'affrontements, de persécutions. Ça, c'est la chose. Et l'avenir, c'est que nous sommes très mal conduits depuis que la machine existe. Et actuellement, nous ne savons pas prendre les mesures qui permettraient d'arrêter ce courant qui est en train de priver la Terre de l'essentiel, c'est-à-dire l'air. Mais c'est sérieux, cette affaire-là. C'est sérieux. On ferme les yeux. On ferme les yeux. Vous avez un pays, un des plus grands, qui est les États-Unis, qui a refusé d'adhérer à la fameuse convention de Kyoto. Et même, genre, encore dans les oreilles, la première déclaration du président Bush, oui, j'aime pas prononcer son nom, je l'avoue. Je lui en veux beaucoup pour beaucoup de choses. On lui a dit, mais alors, quand même, le réchauffement de la planète, il a ri et il a dit, je ne crois pas au réchauffement de la planète. Qu'est-ce qui lui permettait de dire ça? Après, il a trop cru aux armes que M. Saddam Hussein avait accumulées. Bon, mais enfin, c'est pas tout ça. C'est que il faudrait l'union sacrée de tous les pays avec les États-Unis. On ne peut pas mettre les États-Unis à part. La Russie a mis du temps à signer, mais elle l'a signé pour cette action énorme pour que le gaz carbonique soit diminué dans ce qui nous dépasse. C'est triste de se dire que si nous continuons à être aveugles, eh bien, cette humanité qui existe depuis un bon moment risque de disparaître avant la fatalité. Parce que la fatalité est qu'elle disparaisse, parce qu'il y a un beau jour où elle ne recevra plus les rayons du soleil qui lui-même sera en train de mourir. Bon, elle mourra. Mais que nous-mêmes, nous précipitions le mouvement, il y a de quoi en être malade de colère et de chagrin. Voilà.
Cela doit être d'autant plus douloureux pour un homme comme vous qui a passé toute sa vie à la recherche, à enquêter sur ces faits historiques et de constater que l'humanité n'en tire pas profit.
Non, malheureusement, l'histoire, il n'y a pas de leçon, l'histoire. Ça, c'est ce que ma longue expérience m'a démontré. Ce serait beau si on pouvait tirer les leçons de l'histoire. Mais les hommes sont trop orgueilleux. Et on pense que ce qu'ils vont faire, et qui peut ressembler à un fait du passé, c'est différent. Moi, je prends un exemple très clair. Hitler. Hitler, quand il décide de rentrer en Russie, en Union soviétique, eh bien, Hitler peut avoir l'exemple de Napoléon. Napoléon, une des raisons de son erreur, de la perte, enfin, disons, du mauvais calcul, c'est qu'il est rentré trop tard en Russie. Il est rentré avec 2 mois de retard parce qu'il a eu l'hiver trop tôt et il n'a pas eu le temps de vaincre les Russes. Hitler, il le sait, il n'est pas un culte du tout, Hitler. Il a lu, il sait beaucoup de choses. Il connaît cette histoire de Napoléon. Alors ça devrait être une leçon. Et comme Napoléon, il entre avec 2 mois de retard. Pourquoi est-ce qu'il ne tient pas compte de l'exemple de Napoléon? Parce qu'il se dit, Napoléon avait des chevaux. Moi, j'ai des camions, j'ai des chars d'assaut, tout ça va foncer. Voilà. Mais dès que l'hiver est venu, les camions, l'huile et l'essence avaient fondu, les camions et les chars d'assaut se sont arrêtés. Voilà. Voilà une leçon. Je l'ai déjà dit, ça, parce que moi, ça, dès que j'ai vu ça, je me dis, c'est quand même, il faut le répéter, pour que peut-être les gens réfléchissent à leur tour. Mais non, les gens vont continuer à agir sans tenir compte des erreurs des gens du passé.
Vanité, tout n'est que vanité. Ah
ben, vanitas, vanitas.
Et la vanité chez notre ami Victor Hugo. Alors ce personnage qui fait partie de ceux que vous avez suivis, dans les lieux où il a vécu, vous dites connaître mieux Hugo, ou plutôt le connaître. Tel fut le propos de ma vie entière. Mais c'est énorme, le propos
oui,
de ma
oui,
vie
oui,
entière.
Oui, j'ai découvert
c'est une quête.
J'ai découvert à l'âge de 14 ans, il ne m'a pas quitté depuis. Et j'ai en effet cherché à le comprendre. Je l'ai lu d'abord. Pour le comprendre, il faut le lire. J'ai lu Hugo. Alors, autant je ne dis pas que j'ai lu tout Dumas, j'ai lu tout Hugo et j'ai relu tout Hugo. Oui, c'est un homme que j'admire par la puissance de son génie. Je me dis que Les Misérables, c'est probablement le plus grand roman de français, avec tout ce qu'il renferme, de l'histoire qu'il raconte, mais aussi tous les contours de l'histoire, le monde tel qu'il est à l'époque de Hugo, le monde qui ne va pas bien non plus, qui, Hugo veut qu'il aille bien, par l'éducation, surtout par l'éducation. Et puis aussi, parce que c'est aussi le plus grand poète français. Vous savez, il y a toujours cette déclaration entre André Gide, on la cite toujours. On demandait à Gide avant la guerre, mais d'après vous, quel est le plus grand poète français? Et Gide, Victor Hugo, hélas. Eh bien, moi, j'enlève hélas, parce qu'il ne faut pas dire hélas, c'est le plus grand poète français. Vous savez, l'immensité de sa palette, il n'y a que Hugo, parce qu'il a toutes les sources d'inspiration et toutes les manières de traduire son inspiration. Vous avez bien entendu tous les grands poèmes en alexandrin, ou évidemment les cuirasses, les soldats, les chevaliers, l'Antiquité, etc. Tout ça y est superbement. Nous avons tous des alexandrins dans le souvenir. Mais à côté de ça, il va nous faire des livres avec des petits autosyllabes, quelques vers où il dépeint une fleur dans un pré. Ça, c'est énorme, énorme, c'est gigantesque. Il est capable de tout.
Différentes facettes et les contradictions aussi que vous soulignez. Admettre la sincérité du révolutionnaire et le comprendre bourgeois. Croire à sa générosité totale et constater son amour de l'argent. Le voir vivre en leur absolu ses passions amoureuses et asservir la meilleure des amantes.
C'est vrai tout ça, c'est vrai. Il y a l'œuvre. Et l'homme, alors l'œuvre, je ne permets à personne de la critiquer, mais moi-même je critique l'homme.
Et les tables tournantes, et vous allez jusqu'à suivre Victor Hugo dans ses séances de spiritisme.
Oui, j'ai un chapitre sur les tables tournantes, et même j'ai un critique qui a écrit dans son livre « Mais pourquoi tant de pages sur les tables tournantes ?»
Oui, alors dites-nous, est-ce
alors,
que ce...
Je dis parce que c'est un phénomène dont... En suivant l'expérience de Hugo, on est obligé de croire à la réalité. Et parce que je donne toutes les preuves. Hugo recevait, je ne dis pas que... Il avait la chance, parce qu'il s'appelait Hugo, que tous les gens qui venaient dans la table étaient des génies. C'était naturellement Shakespeare, c'était tout le monde, c'était Napoléon même. Tout le monde venait. Et c'était pas en général le plombier polonais. Bon.
Celle de Chateaubriand.
Oui, Chateaubriand.
Et en même temps, tous ces personnages parlent dans le langage de Hugo. Alors on dit, c'est transmission de pensée. En effet, c'était son fils qui était à la table. Le fils ne pouvait pas du tout tricher. C'était impossible, ça allait trop vite. Il notait à toute allure. Bon, il ne savait même pas ce qu'il notait. Bon. Mais cela dit, il y a un phénomène. Il y a un phénomène dont je regrette que la science l'ait toujours éliminé, parce qu'il y a un phénomène. En plus, on peut se dire, comme Hugo n'était pas à la table, mais il était dans la pièce. Alors c'est facile, l'argument. Ben oui, lui pensait et le fils notait. Je vous dis que le fils ne sait pas qu'il notait. Alors c'est difficile. Et la transmission de pensée n'a jamais été démontrée. Vous savez qu'aussi bien les Soviétiques que les Américains y ont attaché beaucoup de prix, puisque on a fait des expériences. On a mis sous le pôle Nord, dans un sous-marin, un très fort transmisseur de pensée, et on a pensé très fort ce qu'il fallait dire. Il n'a rien entendu, les Soviétiques, aucune expérience n'a réussi. Alors, donc, ça reste ouvert, si vous voulez. C'est pour ça que Et puis, vous savez, ça gouvernait aussi une partie de la vie de Hugo, d'une manière affreuse, qu'il avait perdu, vous savez, sa fille Léopoldine, qui est le trésor de ses amours. Il avait pour cette fille une passion, on peut comprendre, elle était jeune, belle, intelligente, s'est noyée, vous le savez, avec son mari, son jeune mari. accident. Et la première expérience de la table, c'est une jeune fille qui vient. Et il dit, qui es-tu ? Une jeune fille. Elle ne donne pas son nom. Mais tu es morte ? Oui, je suis morte. À ce moment-là, Madame Hugo commence à pleurer. Et à chaque réponse, il pleure. Parce qu'ils sont sûrs que c'est Léopoldine. Et c'est ça qui a fait que pendant un an de la vie de Hugo, c'est énorme, gigantesque par rapport à son œuvre. Pendant un an, ils feront, comme il disait, de la table tous les jours, pendant des heures, pour espérer qu'elle revienne. Voilà.
Une part d'irrationnel phénoménale dans leur vie.
Oui, mais Hugo était en rapport avec Dieu. Hugo n'avait pas été baptisé, il n'avait pas de religion, mais il était en rapport avec Dieu. Il dit dans ses notes, aujourd'hui, j'ai prié Dieu 5 fois. Et il redisait qu'il croyait à ce créateur et qu'il lui parlait. Il a même dit quelque chose qui indique aussi, parce qu'il y a une certaine naïveté, quelquefois chez Hugo, on lui dit, mais vous avancez en vie, dans la vie. Il dit, oui, je sais que je vais bientôt voir Dieu. Je vais lui parler. Je m'y prépare. C'est la modestie de Hugo qui se met à égalité avec Dieu. Il se prépare pour savoir ce qu'il va dire à Dieu. C'est charmant. Voilà. Mais enfin, c'est très bien qu'il ait eu la foi, même n'étant pas dans aucune religion. Il a dit, je demande les prières dans son testament, je demande les prières de tous, mais pas des religions.
Voilà. De Victor Hugo, passons cette fois à un fou du Christ, auquel vous avez consacré tout un ouvrage qui vous a demandé des années et des années de travail, de réflexion, l'avorton de Dieu, consacré à Shaul, à Paul.
Oui, Saint Paul, autrement dit.
Saint Paul.
Oui.
Saint Paul qui n'a jamais vu le Christ.
Non, c'est un des grands problèmes, en l'occurrence, ce problème qui, au contraire, permet une ouverture vers autre chose. Fallait-il qu'il ait connu le Christ ? Je me demande dans le livre, ne valait-il pas mieux qu'il ne l'ait pas connu ? Voilà, voilà. Mais c'est un sujet qui m'a resté dans ma tête depuis que j'étais jeune étudiant. Parce que je faisais partie d'un mouvement qui s'appelait la GEC, comme beaucoup d'étudiants de l'époque, jeunes étudiants chrétiens. Et on se réunissait régulièrement. Et un beau jour, on a abordé le problème des sources des évangiles. C'est un éternel problème. Bon, on n'a pas de manuscrit de l'époque, et pour cause. Mais cela dit, les sources, c'est important. Et moi, je me disais, les évangiles sont assez tardifs, quoique pas si tardifs que ça. Et je disais à mon copain de la GEC, mais il y a Saint Paul, ses épîtres sont plus proches. Et c'est lui qui me dit, est-ce que tu sais que Saint Paul n'a jamais vu Jésus ? Je n'avais aucune idée de ça. Je lui dis, comment ? Il ne peut pas écrire ses épîtres. Ah ben si, c'est le problème. Et ça m'est resté dans la tête. Je n'ai pas du tout pensé tout de suite. Je n'avais pas encore écrit le livre à ce moment-là. Mais ça, j'ai attendu très longtemps. Hein. Jusqu'au jour où je me suis dit, je vais faire un livre sur Saint Paul.
Il vous a parfois déconcerté, voire exaspéré, mais jamais vous n'avez douté qu'il ne fût unique.
Absolument, unique, c'est le mot. C'est le mot. Et puis, vous savez, c'est... Lui, il a beaucoup écrit. Et Jésus n'a pas écrit, il a parlé. Et c'est parce qu'il a parlé que nous le connaissons par, justement, ceux qui ont reproduit ses propos. Mais il fallait une prolongation. Et, en quelque sorte... Et certains ont osé dire, c'est Nietzsche par exemple, Nietzsche qui a dit, c'est le fondateur du christianisme. Moi je trouve ça tout à fait stupide, Jésus c'est le fondateur tout de même, il n'y a pas de... Mais arrive Paul, et de tout ce qu'il a su, parce qu'il y avait les survivants, il les a connus les survivants, et là tout ce qu'il a su sur Jésus, il a pensé, est-ce que c'est pas osé de dire mettre de l'ordre. Mais enfin, c'est un peu ça. Que les prêches sur l'amour, sur la paix, tout ce que dit Jésus, eh bien, et en faire une, organiser tout cela pour que ce soit plus facile d'accès. Donc, il n'est pas fondateur du christianisme, mais il est un grand intermédiaire de Jésus avec le christianisme.
Mais il est intéressant à souligner que vous vous soyez davantage intéressé à Paul plutôt qu'à un Matthieu, qu'à un Jean, qu'à d'autres évangélistes, alors que lui, sa foi est arrivée par révélation.
Voilà, c'est ça. C'est que lui, comme il le dit, et pour la dernière fois, Jésus m'est apparu à moi, l'avortant, bien sûr, par révélation. En somme, il a tout su d'un coup.
Canal Académie.
Alain Decaux, rappelez-nous, vous avez été accueilli à l'Académie française, élu à quel fauteuil ?
Au fauteuil de Jean Guénaud. Jean Guénaud qui était un homme de pensée, de culture, un homme de gauche, et qui a joué un rôle important. Vous savez qu'il a d'abord ses écrits qui sont très, 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 très intéressants, et puis... Politiquement, il a participé à la grande aventure de vendredi, au moment du Front populaire, il y avait un hebdomadaire littéraire de gauche, parce que les autres hebdomadaires littéraires étaient en général de droite. Et avec André Chanson, d'ailleurs, il a fondé vendredi, et c'est quelque chose d'important dans l'histoire du Front populaire. Et curieusement, je ne l'ai pas connu. C'est ça l'académie, c'est ça toutes les académies d'ailleurs. On risque d'être élu au fauteuil de quelqu'un. Je l'ai rencontré une fois dans un cocktail. Je lui ai dit bonjour monsieur. Il m'a dit bonjour monsieur. Il n'y a pas de quoi faire un discours.
Alain Decaux, qu'est-ce que la vie au sein de l'Académie française peut apporter comme moyen de travail différent à un historien tel que vous ? Qu'est-ce que votre entrée sous la coupole à l'Institut à contribuer, à vous apporter ?
Eh bien, d'abord, la tâche que le cardinal de Richelieu nous a confiée. Vous savez, nous sommes nés en 1635, nés de la volonté du cardinal de Richelieu, qui nous a donné une mission. Faire un dictionnaire. Et vous savez qu'on en est à la 9e édition, de sorte que chaque fois qu'on a terminé un dictionnaire, on commence la semaine d'après le nouveau. Et je suis là tous les jeudis, comme mes confrères, pour faire le dictionnaire. C'est d'abord notre tâche, et c'est une tâche assez passionnante. Franchement, parce que c'est préparé, n'est-ce pas ? L'étude de chaque mot est préparée par un comité de spécialistes, des agrégés, dont l'État veut bien prendre la charge, et qui travaillent fort bien. Et puis ensuite, il y a la commission du dictionnaire, où certains volontaires travaillent sur les propositions, et ce sont les propositions des membres de la commission qui sont soumises à la compagnie plénière. Je n'ai pas eu, malheureusement, l'occasion, et puis franchement, j'ai dit non quand on m'a dit « vous allez entrer ». Parce que j'ai toujours été, surtout quand j'ai été élu, je faisais tout en même temps, la radio, la télévision, mes livres. Alors vraiment, j'ai dit « je ne peux pas passer une journée entière ». Parce que ceux qui font ça, c'est tout le jeudi, hein. Ils arrivent à 9h30, voilà. Et là, mais je vais régulièrement aux séances de l'après-midi pour travailler sur les mots. Et c'est très intéressant, on nous propose des définitions. On travaille sur l'édition précédente. Et là, on voit c'est les mots qui n'existent plus. Parce que depuis l'édition précédente, qui était 1935, il y a des mots qui ont disparu. le cardinal nous a dit consacrer l'usage. Alors il faut savoir les mots qui ne sont plus en usage. C'est une tâche redoutable de dire on va faire disparaître un mot, il ne sera pas dans la nouvelle édition. Et aussi faire entrer les mots nouveaux, parce que depuis 1935, il y a beaucoup de mots. Vous savez, les mots naissent de la rue, ils naissent d'un désir, d'une volonté, on ne sait pas comment le dire, alors on invente un mot. Il y a beaucoup d'argot à l'origine, il y a aussi des mots étrangers. Alors, décréter que maintenant tel mot va entrer, c'est également une responsabilité assez importante, et on vote, vous savez. Quelquefois, ça passe parce que la définition nous convient à tous, mais très souvent, il y a un débat, et c'est très passionnant de participer à ce débat. Il y a des gens qui disent, qui sont très conservateurs, qui ne veulent absolument pas qu'on fasse disparaître aucun mot, même si on leur démontre que depuis deux ou trois siècles, il n'y a pas une allusion dans un seul article de journal, dans un seul voix. Parce qu'il y a cette recherche. On cherche dans tout ce qui paraît si le mot a été utilisé. Tout ça est très intéressant. Et puis alors, il y a aussi des débats qui s'ouvrent sur des problèmes d'actualité importantes, consacrant notre tâche sur l'utilisation de la langue française, sur ce qu'on devrait faire, sur ce qu'on ne doit pas faire. Alors là aussi, nous faisons des cris d'alarme dans certains sens, qui sont assez souvent repris par la presse, parce qu'on n'en abuse pas. Quand on pousse un cri d'alarme et qu'il est repris par la presse, c'est que nous pensons qu'il est utile d'attirer l'attention. Enfin, tout ça, ça a beaucoup ajouté à ma vie, et là, je ne regrette pas, je dois y ajouter quelque chose de très égoïste, c'est que j'ai rencontré à l'Académie des gens que je n'aurais jamais rencontrés sans l'Académie. Parce que vous savez, nous avons tous des spécialités. Je prends un homme comme Georges Dumézil. Je l'admirais de loin, mais lui, ses recherches étaient tellement loin de les miennes, et lui, moi aussi, on ne se serait jamais rencontrés. J'ai eu la chance de vivre plusieurs années avec lui. En plus, il n'était pas loin. On a pu se dire des choses. Et on est devenu, malgré la différence de génération et également de choix de carrière, on est devenu des amis. Et j'ai eu plusieurs amis comme ça à l'Académie française que je n'aurais pas eu sans l'Académie. Et là, c'est une gratitude que je dois adresser au cardinal de Richelieu.
Un grand merci, Alain Decaux, d'avoir passé cette heure en communication avec les auditeurs de Canal Académie. Merci beaucoup.
C'est à vous que je dis merci. Et je salue mes confrères.